midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 juin, nous fêtons les Prospères, les Éléonore et les Salomon. C'était un 25 juin 1997, Jacques-Yves Cousteau, l'écologiste et océanographe qui a révolutionné la technique de la plongée sous-marine, nous quitte à l'âge de 87 ans. On jette un coup d'œil à la météo du jour en Meurthe-et-Moselle. L'anticyclone et son dôme de chaleur se maintiennent. Résultat, beaucoup de soleil, 2-3 cirrus à peine et toujours une ambiance caniculaire avec des températures records aussi bien la nuit qu'en journée. La vigilance rouge est d'ailleurs activée dans le département jusqu'à 38 degrés à l'ombre cet après-midi. Dans notre dossier du jour, en 2015 naissait la région Grand Est, issue de la fusion de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 10 ans plus tard, c'est l'occasion de dresser un bilan sur la question des transports, car la région en a fait un axe majeur de son action. Mais d'abord, le coup d'envoi des soldes d'été a été lancé hier pour une durée de 4 semaines jusqu'au mardi 21 juillet inclus. Des soldes qui débutent en pleine vague de chaleur. Pour l'heure, difficile de prévoir l'effet de ces températures sur la consommation. Mais les soldes sont année après année de moins en moins attendus par les Français, plombés par l'inflation, les offres promotionnelles régulières et la vente en ligne. En 2025, le bilan a été mitigé pour les commerçants.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres. La canicule continue de s'étendre sur la France qui s'apprête à vivre ce jeudi une nouvelle journée suffocante. 72 départements sont en vigilance rouge aux fortes chaleurs et 10 passeront en alerte orange aux orages à partir de cet après-midi. Un début d'amélioration est attendu en soirée pour les chaleurs sur la façade atlantique et dans le sud-est. La vigilance rouge canicule sera levée dans 11 départements de l'ouest à partir de 22h selon Météo France. Mais la canicule devrait encore se poursuivre ce week-end sur une grande partie du pays avec des températures attendues autour de 40 à 42 degrés. Et puis cet épisode de canicule que vit la France a entraîné un pic rarement, voire jamais observé de recours aux soins d'urgence pour des personnes de tout âge, notamment des jeunes âgés de 15 à 44 ans. C'est ce qu'annonce Santé publique France. Le nombre de passages aux urgences, notamment pour des coups de chaleur, a été multiplié par 3. Le gouvernement relève le plan Orsan à l'échelon 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. Par ailleurs, un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans la voiture de ses parents en pleine canicule hier soir dans le Val d'Oise. Et les fermetures d'écoles s'étendent. Le ministre de l'Éducation nationale dénombre 13 500 écoles fermées ou avec des aménagements d'horaires aujourd'hui. Près de 1000 trains sont supprimés sur les 15 000 qui circulent habituellement. La chaleur met en effet à rude épreuve le matériel et les infrastructures ferroviaires qui sont parmi les plus vieilles du monde. 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen après une agression mortelle sur un autre jeune de 17 ans dans la nuit de vendredi à samedi. C'était à Narbonne. Louis aurait été attiré dans un guet-apens avant d'être violemment frappé et laissé pour mort. Et puis, 2 puissants séismes au Venezuela de magnitude 7,2 et 7,5 ont fait au moins 32 morts et plus de 700 blessés selon un premier bilan provisoire. La présidente par intérim du pays a déclaré l'état d'urgence. La France s'est dit prête à examiner avec ses partenaires européens les moyens de répondre aux besoins les plus urgents de la population vénézuélienne. Allez, on passe au dossier du jour.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Procéder à un nouveau découpage des régions, c'était l'objectif de la loi du 16 janvier 2015 dans le cadre de la décentralisation mise en œuvre sous François Hollande. Le nombre de régions en France métropolitaine passait alors de 22 à 13 régions. Ainsi naissait la région Grand Est, issue de la fusion de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 10 ans plus tard, c'est l'occasion de dresser un bilan sur la question des transports, car la région Grand Est en a fait un axe majeur de son action pour garantir l'accessibilité des des territoires et soutenir l'attractivité économique et transfrontalière. Des investissements importants ont notamment été déployés sur le rail grâce à un réseau ferroviaire renforcé et modernisé. L'offre ferroviaire a augmenté de 27% et près de 1900 trains circulent chaque jour. La région a également engagé une politique volontariste de réouverture et de préservation des lignes rurales, avec par exemple la réouverture d'Épinal-Saint-Dié en 2021 et aussi celle de Nancy-Contrexéville qui sera prévue fin 2027. Écoutez à ce sujet Thibaut Philips, vice-président en charge des transports.
C'est une ligne qui avait été fermée en 2016, qui avait été fermée parce que la SNCF estimait que l'infrastructure était beaucoup trop abîmée et que les sommes importantes qu'il fallait mettre pour pouvoir complètement réhabiliter cette ligne en fait étaient indisponibles à l'époque, puisqu'on était dans un système un peu plus cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait la région à l'époque ne pouvait pas intervenir sur la rénovation de ligne. Ce qui a changé depuis, c'est que la réglementation fait que la région peut devenir propriétaire de lignes ferroviaires. Et donc là, par exemple, sur la ligne entre Nancy et Contrexéville, c'est le cas. On devient propriétaire de la ligne ferroviaire. Et donc forcément, on peut investir directement aussi sur l'infrastructure. On n'est plus seulement à devoir payer la circulation des trains, mais on peut aussi investir sur ces petites lignes de desserte fine du territoire, comme on les appelle, et justement les remettre en état et faire circuler des trains. Et c'est une équation qui est très intéressante pour nous, puisque ça permet de remettre du train dans les territoires. En fait, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on peut prendre tous les moyens de transport qui sont aujourd'hui disponibles. On n'a pas un seul moyen de transport aussi efficace et aussi vertueux que le moyen de transport que représente le train. En fait, le train, c'est là où on a le meilleur bilan carbone, c'est là où on est en capacité quand même de faire transiter le plus de personnes. On peut aussi l'utiliser pour du transport de marchandises. Et en fait, ça répond vraiment à l'enjeu qu'on a aujourd'hui, à la fois de décarboner, mais aussi de faire en sorte de remailler les territoires. Sur les TER, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un usager achète un billet de train, il ne paye que 28% du prix réel de ce que ça nous coûte. Donc ça veut dire que les 72% autres, c'est de l'argent public qui est mis en place par la région. Et donc après, il faut toujours trouver le bon seuil entre qu'est-ce que prend le contribuable en charge et qu'est-ce que prend l'utilisateur en charge. En tout cas, on a cette politique tarifaire assez ambitieuse, et notamment avec la carte fluo, la carte de réduction. Et donc cette carte de réduction, elle fonctionne bien, puisqu'il y a plus de 550 000 porteurs aujourd'hui de carte fluo. Et donc là, l'intérêt, c'est que sur n'importe quel train, une fois qu'on a une carte fluo, on a 50% sur le prix normal. C'est vrai que là, on est sur un reste à charge, en règle générale, qui est très intéressant, et du coup, qui est sans commune mesure avec ce que souvent les gens ont en tête sur le prix du train, qui est un petit peu faussé par le prix des TGV, pour le coup, est un prix beaucoup plus important. Chaque année, on a un contrat TER qui nous lie à la SNCF, qui tourne autour de 800 millions d'euros. Donc c'est vraiment un budget qui est extrêmement important. Chaque année, pour faire circuler tous ces trains en région Grand Est, on est à 800 millions d'euros. On est à peu près sur un rythme entre 400 et 500 millions d'euros par an d'investissement, qui sont des investissements soit pour l'infrastructure, soit aussi forcément pour racheter du matériel roulant. On renouvelle régulièrement le matériel roulant. On a pu faire notamment l'acquisition des rames à la région Normandie pour le sillon Lorrain, là qui sont en train de rentrer en service et qui ont plus de capacité. On a racheté aussi des rames pour faire des liaisons avec l'Allemagne, des rames qui sont adaptées, qui ont dit transfrontalières, puisqu'elles sont adaptées pour rouler côté français mais aussi côté allemand. Et là, les 30 rames, par exemple, c'était 308 millions d'euros d'investissement. Donc c'est tout de suite des sommes qui sont quand même assez conséquentes.
Et en matière de transport, la région se veut innovante.
On est déjà innovant sur la réouverture de lignes et sur la gestion de lignes, puisqu'on est aujourd'hui la seule région de France qui s'est positionnée sur la propriété de lignes. Et donc on a en fait 12 lignes là qui sont prévues à reprendre en propriété en 2029-2030. Et donc on estime à peu près 1,2 milliard d'euros les investissements nécessaires pour les remettre en état. Sur le matériel roulant, on travaille aussi beaucoup sur d'autres carburants, puisqu'il faut savoir qu'on a pas mal de lignes de desserte fine du territoire qui aujourd'hui sont pas électriques. électrifiée. Et donc la problématique, c'est que pour le moment, les trains ont tendance à rouler en diesel. Et donc pour sortir du diesel, par exemple, on est en train d'expérimenter le recours à des biocarburants, notamment le B100. Donc on transforme certains trains pour qu'ils accueillent du B100. Et on a des expérimentations en ce moment, on travaille avec d'autres régions de France sur des trains à l'hydrogène. Donc voilà, on essaye vraiment de regarder tout ce qui peut être une alternative. Et on travaille aussi avec l'entreprise Leur Industrie et la SNCF sur un petit train léger qu'on appelle Drézy. Et donc qui serait un train sur batterie qui permettrait justement de circuler plutôt sur des lignes rurales, parce que c'est des trains qui ont une capacité de 80 à 80 passagers où il n'y a que 30 places assises à l'intérieur. Et donc là, on serait vraiment sur un matériel léger beaucoup plus adapté à ces lignes-là.
Et sans oublier les cars et le vélo.
Ce qui est intéressant, c'est que la loi a fait que la région est devenue autorité organisatrice de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est le chef de file en matière de mobilité, donc on travaille en lien avec nos partenaires, notamment les territoires. Mais dans nos compétences propres, on a non seulement le train, mais aussi le car, qui est très connu puisque c'est nous qui assurons au quotidien le transport scolaire et un certain nombre de lignes régulières. Et là aussi, on travaille sur des innovations, de trouver des cars qui circulent à d'autres énergie qu'au gasoil. On travaille aussi sur un plan vélo qui est doté de 125 millions d'euros et donc pour aider les territoires à développer des infrastructures cyclables, mais aussi sur le projet de vélo fluo qui sont les vélos en gare, les 52 stations qui sont en train d'être déployées en gare pour justement faire le complément quand on a pris le train, d'avoir une solution par un vélo en libre service, de pouvoir faire un complément de parcours. Donc c'est vrai qu'on essaie de travailler sur l'ensemble des mobilités qui sont aujourd'hui disponibles.
Et depuis 2 ans, la région est engagée dans une expérimentation sur le réseau routier national.
C'est-à-dire sur la prise en gestion par la région de la 31 et de la RN4, puisque avant ça, la loi ne nous permettait pas de pouvoir le faire, même si on en avait toujours eu des velléités. Là, c'est possible, et donc désormais, c'est la région qui gère au quotidien la RN4 et la 31. Et donc, ça complète en fait le bouquet de solutions de mobilité qu'on offre, puisqu'en fait, on reprend des axes routiers qui sont très utiles à nos concitoyens, mais qui ont fait un peu l'objet ces dernières années de sous-investissement par rapport à ce qu'il fallait, et donc ils sont fortement dégradés. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on essaye vraiment d'accélérer la remise en état de ces axes routiers, et puis je pense que ça se voit puisqu'il y a pas mal de chantiers qui sont engagés sur ces 2 axes.
Et alors, quels sont les objectifs pour les 10 années à venir ?
Pour nous, l'intérêt maintenant, ça va être déjà de stabiliser tout ce qu'on a mis en œuvre, parce qu'on est dans un contexte budgétaire qui est assez mouvant, notamment au niveau national. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir sécuriser tout ce qui a été mis en œuvre, notamment les circulations ferroviaires, et pas faire de politique du yo-yo, si je puis dire. C'est-à-dire, quand ça va un peu moins bien sur le plan budgétaire, revenir sur des décisions qui ont été prises, parce que je pense qu'en matière de mobilité, il faut avoir quand même une vision à long terme. Et puis, on va avoir cet enjeu de propriété de ces lignes et de remise en état de ces lignes. Et ça, c'est un chantier qui est quand même colossal, puisque comme il représente plus d'1 milliard d'euros, il sera évidemment fait sur plusieurs années. Et donc, on aura aussi l'enjeu de pouvoir continuer à développer ce qu'on appelle les services express régionaux métropolitains, les fameux SERM, comme il y a à Strasbourg déjà, avec le réseau express métropolitain. Et en fait, l'intérêt, c'est pas juste de développer des transports de qualité autour de certaines métropoles, mais c'est bien d'irriguer tout un territoire. Et c'est pour ça qu'on a un SERM à Strasbourg. On a le CERM Lorraine-Luxembourg, on a celui de Reims qui vient de démarrer il n'y a pas longtemps, et on a aussi celui de Mulhouse-Bâle. Donc c'est vrai que ça prend tous les cadrans et tous les enjeux de transport et de mobilité du territoire.
RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, un cas d'Ebola a été diagnostiqué pour la première fois en France chez un médecin humanitaire revenant de République démocratique du Congo. Le pays est actuellement frappé par une importante épidémie. Le médecin était cependant déjà isolé depuis son retour. Les autorités sanitaires se veulent donc rassurantes. Un essai clinique portant sur 2 traitements contre Ebola doit être lancé la semaine prochaine en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Et puis, 20 jours après la découverte du corps de Liana, le parquet annonce que l'enquête visant Jérôme Barella, principal suspect, est ouverte pour viol sur mineur de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise. En plus, des chefs d'enlèvement, séquestration, meurtre sur mineur de 15 ans, les constatations du rapport d'autopsie combinées avec les analyses biologiques précédentes amènent en effet à conclure que la commission d'un viol sur la victime a été réalisée. C'est ce que précise le procureur d'Agen, Jérôme Barella, encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Le quart d'heure actu, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Très bonne journée.
Pour tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.